continuer à bien voir ce que Aristote nous dit à propos de la finalité dans la nature. Alors, je reprends un peu pour que vous vous remettiez dedans. En avançant ainsi de peu, il apparaît que dans les plantes aussi adviennent les choses utiles à la fin. Les feuilles, par exemple, en vue de la couverture du fruit. Il faut faire un petit peu attention à ça. De sorte que, si c'est à la fois par nature et en vue de quelle fin que l'hirondelle fait le nid et l'araignée la toile. Et si les plantes produisent les feuilles en vue des fruits et les racines non vers le haut, mais vers le bas, en vue de la nourriture, il est clair que la causalité de cette sorte existe bien dans les réalités qui adviennent et selon leur nature. Vous voyez, c'est toujours la question de la fréquence hein, qui permet ça. C'est la détermination dans certaines opérations qui permet de dire qu'il y a un lien entre la nature et la fin. Puisque la nature est double, s'exerçant l'une comme matière, l'autre comme forme physique, celle-ci en outre étant fin, et les autres causalités s'exerçant en vue d'une fin, cette même nature sera la cause qui est ce en vue de quoi s'exercent les autres causalités. Donc la nature forme et fin. C'est ça que ça veut dire. Parce que la finalité dans la nature n'est pas extrinsèque aux opérations de la nature. C'est ça la très grosse difficulté. On est dans un regard un peu extérieur, je dirais, au fond, la fin dans la nature n'est pas autre chose que sa forme. Puisque la fin, c'est la forme qui détermine les opérations. Donc, il n'y a pas au sens strict, une nouvelle finalité. Je dis ça d'un regard extérieur. Pourquoi pouvons-nous dire qu'à partir de la forme, il y a bien une fin ? Parce que toute la finalité repose sur la détermination, donc sur la forme. La matière étant indéterminée, elle ne peut pas expliquer la finalité. C'est la forme qui explique la finalité. Mais est-ce que la forme ne suffit pas ? L'araignée fait une toile d'araignée. Ben oui, c'est sa propriété. C'est comme l'homme qui est capable de rire. L'araignée est capable de former une toile d'araignée. Quelle différence y a-t-il entre l'affirmation « l'homme est capable de rire » et « l'araignée fait une toile d'araignée » ? L'araignée est capable de faire une toile d'araignée. Oui, c'est ça qu'il faut se poser pour comprendre est-ce que l'argumentation d'Aristote, si on veut comprendre l'argumentation d'Aristote, vous dites, le sourire, l'homme est capable de rire. Et donc quand vous voyez un gosse qui sourit, vous dites, c'est un homme. Puisque le singe ne sourit pas. Je l'ai jamais fait sourire. Même un singe apprivoisé, il ne sourit pas. Pour vous donner une tape. Vous ne direz jamais que donner une tape, c'est le prof de l'homme. Surtout si la tape est un peu violente. C'est pas le prof de l'homme. Alors, comment pouvons-nous dire que l'araignée, en faisant la toile d'araignée, manifeste une finalité ? Ce qu'il dit ici. Hein ? D'ailleurs, en avançant de peu, il apparaît que dans les plantes aussi adviennent des choses utiles. De sorte que si, à la fois par nature et en vue de quelque chose, l'hirondelle fait le nid et l'araignée la toile, en vue d'eux. Oui.
On dirait que c'est la fréquence qui manifeste.
Oui, c'est la fréquence.
Mais pourquoi ?
C'est la fréquence qui manifeste de fait le point de vue de la finalité.
On pourrait bien dire ça pour une forme aussi.
Et pour la propriété. Parce que que la propriété est au fond nécessaire. Vous voyez, la différence entre le katoto second et le katoto 4. Tout est là. Hein. Et c'est pas commode. Et voyez comme c'est facile alors à partir de ce moment-là de dire qu'au fond, on dit une finalité à cause de l'homme. Donc c'est une anthropomorphisme. Vous appliquez à cause de l'homme qui est une finalité. Parce qu'en vous, il y a une finalité. Vous pouvez distinguer en vous une finalité et pas une finalité. Vous pouvez dire par exemple, je suis capable de sourire. Ça peut se faire uniquement comme une capacité. Vous souriez à quelqu'un pour lui dire bonjour. Vous pouvez sourire à quelqu'un pour capter son attention. Donc à ce moment-là, le sourire a une finalité. Vous pouvez sourire pour le séduire. Vous savez que vous avez le plus beau sourire du monde qui soit. Donc vous séduisez par là. Et vous séduisez quelqu'un en souriant. Donc il y a une finalité. Mais ça, c'est la finalité morale. Vous voyez ? Et vous l'appliquez à la plante. L'araignée, quand elle fait sa toile d'araignée, elle ne sourit pas. Elle fait sa toile d'araignée par nécessité. Elle n'a jamais pensé de faire une toile d'araignée. C'est une nécessité. De fait, les mouches tombent dedans. Ben, c'est bête. C'est la plus intelligente, on ne voit pas dedans. Alors qu'est-ce qui vous permet de dire que la toile d'araignée est faite pour arrêter les mouches ? Vous voyez que c'est pas si commode que ça, hein, de voir la finalité, la vraie finalité de la nature. Alors je crois que la vraie finalité de la nature, c'est la fréquence dans un ordre. Vous voyez, c'est les deux éléments. C'est la fréquence dans un ordre. C'est pas uniquement la fréquence. La fréquence expliquerait une propriété. Tandis que la fréquence dans un ordre explique quelque chose de plus. Et il me semble que le point de vue de la finalité, c'est-à-dire l'énéka tout, ou le tout énéka, cette nature sera la cause qui est ce en vue de quoi s'exercent les autres causalités. De l'ordre. La fréquence dans un ordre. Vous voyez, il y a trois choses. Il y a l'araignée, la toile d'araignée et la mouche. Si jamais une mouche s'était tombée dans une toile d'araignée, vous ne pourriez pas dire que la toile d'araignée est en vue de. C'est que vous avez vu la fréquence entre l'araignée, la toile d'araignée et la mouche. Et que dès que la mouche tombe dans la toile d'araignée, l'araignée est là, qui se précipite. Si avec l'araignée et la toile d'araignée, vous diriez que c'est la propriété de l'araignée de faire ça. Elle fait ça par nature. Comme au fond, la plante pousse selon tel germe, il y a telle feuille qui pousse selon l'organisation interne. Mais il y a plus. Il y a le tronc, la branche, la feuille, le fruit. Il y a toujours le même ordre. Alors, à cause de l'ordre et la fréquence dans l'ordre, vous dites qu'il y a une finalité. Vous voyez, il y a les trois éléments. D'ailleurs, il advient ainsi, il advient aussi des fautes dans les réalisations accomplies par l'art de temps à autre. De fait, le grammairien n'a pas écrit correctement et le médecin n'a pas correctement prescrit le remède. Ça arrive. Il se trompe. Pas arrivé. Et vous n'allez pas vous fâcher parce qu'il se trompe. C'est pas infaillible. Il peut se tromper. De sorte qu'il est manifeste qu'il est aussi loisible que cela se produise dans les réalisations incompliquées par la nature. Il peut avoir des ratés dans la nature. Il peut peut se faire que l'araignée n'ait pas mis sa toile d'araignée dans un bon coin où il y a des mouches. Jamais une seule mouche ne tombe dedans. Donc c'est vain, cette toile d'araignée. Vain, elle n'atteint pas sa fin. La feuille fait, mais il n'y a pas de fruit. Vain. Le médecin a prescrit une ordonnance et le remède ne produit aucun effet. Vanum. De sorte qu'il est manifeste qu'il est aussi loisible que cela se produise dans les réalisations accomplies par la nature, par nature. Si donc il existe certaines réalisations accomplies par l'art, dans lesquelles ce qui est correctement réalisé l'est en vue d'une certaine fin, tandis que les parties fautives on a entrepris la réalisation en vue d'une certaine fin, mais on l'a manqué. Il pourra en aller de même dans les réalités physiques. Et les monstres sont des fautes qui s'écartent de cette fin en vue de laquelle la nature tendait à les réaliser. Hein? Là, on est obligé de gloser. Hein? Le texte rigoureux, c'est celui-ci. Il pourra en aller de même dans les physiques, donc les choses physiques, et les monstres sont des fautes de ce en vue de quoi la nature tendait. Ce en vue de quoi? C'est tout. C'est suffisant, du reste. Ce en vue de quoi? Le monstre, c'est l'inadéquation de l'opération à la finalité. Le monstre est donc, d'une certaine manière, témoin de la finalité. Témoin négatif. Parce que s'il n'y avait pas de finalité, vous ne diriez jamais qu'il y a des monstres. Qu'au fond, vous avez saisi que dans la nature, il y a un certain ordre et que l'ordre ne va pas jusqu'au bout. Alors vous dites, si on ne va pas jusqu'au bout, c'est une faute, c'est monstrueux. Si ça allait jusqu'au bout, ben vous ne diriez pas que c'est monstrueux.
Est-ce qu'il y a une distance entre la forme et sa propriété? Parce que pour qu'il puisse y avoir un monstre, il faut qu'il y ait comme un hiatus entre...
Oui, parce qu'il y a un ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, il n'y aurait pas d'hiatus. Oui, c'est la différence entre le catoto, la propriété, qui provient de la forme. Et remarquez que même la propriété peut très bien ne pas... Il peut y avoir une inhibition de la forme substantielle qui fait que la propriété ne paraît pas. Oui, à cause de la matière. Et donc, le monstre peut aller jusque-là. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas si c'est un être vivant ou pas un être vivant. Et quelqu'un qui n'a jamais souri, quelqu'un qui n'a jamais parlé, qu'est-ce que c'est? Alors, vous me demanderez, évidemment il a des yeux, il a un regard, mais son regard, c'est comme la vache qui regarde le train. Quand une vache regarde le train passer, elle pense à quoi? Elle dit, c'est le TGV, c'est pour ça qu'il va plus vite que les autres. Je pense qu'elle pense. Je n'en sais rien. Oui. De sorte que la forme substantielle est déduite pour nous à partir de la propriété. Et la finalité est déduite à partir de l'ordre efficace. Mais les deux monstruosités viennent de la matière. Mais la victoire de la fin est plus grande sur la matière que la victoire de la propriété. Il y a une double victoire, en quelque sorte. Et donc, si, dans les dispositions, dès le commencement, les bovins n'étaient pas capables de parvenir à un certain terme, et fin, il advenait dans la déficience d'un certain principe tout comme maintenant, les monstres adviennent dans la déficience de la semence. De plus, il était nécessaire qu'advienne d'abord une semence, mais non directement les animaux, et ce qu'Empédocle appelle première réalité, informe, était une semence. Ah, ça, là aussi, on doit gloser. C'est l'état prota. Donc l'état prota informe. L'état prota où l'eau fouesse mène sperma. Mais c'est les spermes. C'est évident qu'on peut dire que c'est un pédocle, mais au fond, il ne le cite pas. Hein. Donc c'est plus général. Et je ne sais pas si on doit l'ajouter. Oui, parce que ce n'est pas nécessairement une référence à Empédocle. De façon beaucoup plus générale, l'état prota. C'est une expression d'Empédocle, c'est sûr, mais c'est une expression d'Empédocle qu'Aristote assume. L'état prota informe. Bon, le premier dans l'ordre génétique est toujours informe. Ou l'eau fouesse. Alors, Oulofouès, le taux Oulofouès, prota. Regardez exactement au point de vue grec. Oulofouès, il n'est pas là, notre grec. Alors, le Oulofouès, comment traduire Oulofouès? Oh, regardez exactement. Parce que informe, c'est non-forme. Et alors, est-ce que Oulofouès n'a pas une petite distinction entre les deux? C'est ce que je me demande. Regardez ça. Parce que le sperma n'est pas informe. Il contient la forme virtuellement. Et ce n'est pas uniquement informe. Alors je me demande, si le Oulofouès n'est pas ça. Il faudrait vérifier. C'est évident qu'il y a une distinction, vous voyez, c'est ça qu'Aristote veut montrer. Que entre le premier génétique, donc le ta, l'état prota, les premiers génétiques sont virtuels, contiennent virtuellement la forme. Ou la forme naturelle. Entre les deux, il peut y avoir des ratés. Et le monstre, c'est entre la semence et puis, la nativité. Surtout pour Aristote, on ne pouvait pas encore faire beaucoup d'études génétiques à ce moment-là. Nous, maintenant, on fait des sondages pour voir si l'embryon est correct ou pas. Donc, si dans l'embryon, tout est organisé normalement. Mais c'est évident qu'entre l'état prota et la forme substantielle, c'est à ce moment-là que, de fait, toutes les monstruosités peuvent se manifester. Parce que la forme n'est pas encore totalement victorieuse. Elle n'est qu'à l'état virtuel. Oui, je crois que c'est ça qu'Aristote demanderait. Mais entre les semences et la naissance, ce qui est né, il y a un ordre. Un ordre déterminé. Un ordre qui implique une fréquence. Il implique une finalité. Entre la semence et la forme substantielle, il y a une finalité. Parce qu'il y a un ordre, une fréquence, qui permet de déterminer les manques, les choses monstrueuses. Vous voyez ? de plus, la fin en vue de laquelle existe aussi dans les plantes. D'ailleurs, elles sont moins organisées. Est-ce donc que dans les plantes aussi sont advenues? Est-ce donc que dans les plantes aussi sont advenues, de même que les bovins à face d'homme chez les animaux, quand cela advint toujours ou dans la plupart des cas? Pardon. Dans les bovins à face d'homme chez les animaux, des pousses de vigne à terminaison d'olivier, ou bien non, car c'est absurde. Et pourtant, il le faudrait bien si cela se produit aussi dans les animaux. Mais c'est très amusant, ça. Aristote va montrer qu'est-ce que c'est que le monstrueux. Et qu'est-ce que c'est que le non-monstrueux. Est-ce donc que dans les plantes aussi sont advenus, de même que les bovins à face d'homme chez les animaux? Pour les bovins à face d'homme chez les animaux. Est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Vous savez qu'aujourd'hui, on se repose les mêmes questions. Il y a eu des essais monstrueux, effrayants, mais ça a été fait. Voir si ces choses-là sont des mythes ou des réalités. Est-ce que je peux croiser un bovin et un homme? D'avoir un bovin à face d'homme. Un bovin à quatre pattes avec une face d'homme, oui, ça. Oui, si, c'est affolant, ce sont les mythes. C'est très curieux qu'Aristote cite ici ça. Est-ce donc que dans les plantes aussi sont advenues, de même que les bovins face d'homme chez les animaux, des pousses de vigne à terminaison d'olivier? Vous avez une vigne, puis après un olivier qui pousse après. Un marcottage fait de cette manière-là, que l'olivier pousse sur la vigne. Et vous avez fait le marcottage, vous avez fait œuvre artistique. L'art est intervenu. Est-ce que l'art peut intervenir chez les animaux de la même façon? Ou bien non, car c'est absurde. Mais pourtant, il le faudrait bien si cela se produit aussi dans les animaux. C'est très amusant, ça. Au fond, c'est voir est-ce que l'art peut intervenir faussant la finalité. C'est la question de la puissance obédientielle, radicalement, ce que Saint Thomas appellerait la puissance obédientielle. Est-ce que les semences animales sont en puissance obédientielle aux semences humaines? Est-ce que les pousses de vigne sont en puissance obédientielle à l'olivier? Jusqu'où l'art peut-il intervenir? Oui, c'est la question que je vous ai posée une fois entre la coopération et le point de vue, au contraire, de l'exploitation. La coopération, c'est dans la ligne secundum naturam, selon la nature. L'exploitation ou la violence, dans toute exploitation, il y a une violence. Dans quelle mesure on violente la nature en faisant que la finalité n'est plus réalisée comme finalité? Alors on est en face de la violence. Alors les bovins à face humaine, est-ce de la violence ou est-ce que c'est tout simplement une œuvre artistique? Je peux prendre du bois et donner du bois une face humaine. Statue. Avec du bois, faire une idole. Tout le monde est d'accord. Pourquoi ne puis-je pas faire, avec une semence animale, bovin, une tête d'homme? Et la question d'Aristote, c'est très amusant ça. c'est les limites de l'art par rapport à la nature. C'est donc toujours, n'oubliez jamais ça, tout le temps dans cette philosophie de la nature, il y a tout le temps l'art qui est là. Comme deux choses qu'on considère tout le temps, tout le temps. Et ce sont les problèmes qui reviennent aujourd'hui. C'est très actuel, ça. Dans quelle mesure l'art peut-il intervenir dans les choses de la nature? Et ce petit histologue à Fribourg, qui était un Alsacien merveilleux, qui faisait l'étude génétique des oiseaux, et il me disait, quand je lui demandais « qu'est-ce que vous faites ?», il me dit « j'essaie d'étudier la genèse, l'aspect génétique des animaux, des oiseaux, et je m'aperçois que chaque fois que l'homme intervient, il fait un monstre. » Il intervient sur les œufs des animaux, des petits oiseaux. Qu'il injecte sur les œufs certains produits chimiques pour essayer de voir. On va pas faire. Dans quelle mesure et à quel moment l'art peut-il intervenir sur la nature? À quel moment l'art ne peut pas intervenir sur la nature? C'est une violence. C'est ça. Pas toujours commode, hein, parce que l'animal ne gémit pas. Et puis au niveau embryonnaire, l'embryon ne dit rien. Si on veut vous greffer une oreille de vache, puis que la greffe pousse, vous aurez une oreille de vache. Alors, vous êtes attendant, on dira c'est naturel. Personne ne dira ça. Alors, dans quelle mesure l'art peut-il intervenir sur la nature? Et dans quelle mesure l'art ne peut pas intervenir? C'est ces questions-là. Hein. Pourquoi tout le monde considère que c'est normal de transformer le bois en statue et qu'on se considère anormal de faire un bovin à face humaine? Pas si commode que ça de répondre. Hein. C'est les questions qu'il faut se poser. Hein. Parce que c'est toute la question aujourd'hui. Pourquoi est-il interdit, de point de vue de la génération humaine, de se servir d'un instrument pour le point de vue de la génération in vitro, la procréation in vitro? Plus l'art s'affine, plus c'est difficile de voir les frontières. C'est la grosse question philosophique. Parce que vous voyez, s'il n'y a pas erreur au niveau de la nature, il ne peut pas y avoir erreur au niveau moral. Il y a toujours un fondement dans la nature. L'aspect moral se fonde tout le temps sur la phosis. C'est autre chose, c'est un autre point de vue. Il faut distinguer les points de vue, mais l'aspect moral se fonde sur le point de vue du vivant. Donc il y a quelque chose de substantiel, c'est pour ça que ça fonde sur la nature. Autrement, vous aurez une morale purement conventionnelle. Vous avez une loi purement positive. Je veux dire, c'est une loi positive. C'est comme ça que du reste, les biologistes, du moins certains biologistes, considèrent les lois de l'Église. C'est conventionnel, donc ça changera. C'est conventionnel, c'est-à-dire, c'est relatif à l'état d'esprit de maintenant, n'est-ce pas ? Voilà. La question de... Vous voyez, ces choses-là, c'est très intéressant, la question... Alors là, on passe à un point de vue politique. La question de l'éducation libre, ou l'éducation nationale, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est conventionnel ? Mitterrand disant, ma conviction, c'est que la loi doit être, l'éducation doit être nationale. J'ai vu qu'en changeant, je touchais quelque chose de très profond dans la mentalité. Alors, je suis revenu. Mais dans sa conviction, ça doit changer. J'en suis sûr. Vous voyez, il faut trouver le point d'insertion naturel pour comprendre que ce n'est pas conventionnel et donc ça ne peut pas changer. Autrement, c'est conventionnel, pourquoi ça peut changer? Alors, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est pas naturel? C'est là tout le point de vue de la philosophie politique. Tout le point de vue de la philosophie politique doit regarder ce qui est conventionnel et ce qui n'est pas conventionnel. Ce qui s'enfonce dans la nature et ce qui ne s'enfonce pas dans la nature. Donc c'est les principes qu'Aristote touche ici. Et tout ça, on regarde la finalité. S'il n'y a plus de finalité, si ça touche la finalité, ah, vous voyez, l'éducation. Qu'est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le chef d'État ou la famille? Est-ce que c'est le chef d'État qui met au monde des enfants? Génération Mitterrand. Oui. Est-ce que c'est le chef d'État qui met au monde des enfants? Si c'est le chef d'État qui met au monde des enfants, il a le droit de les éduquer. Ce qu'avait fait Hitler. Si c'est la famille qui met au monde des enfants, c'est la famille qui a la responsabilité d'éducation. Et on ne peut pas aller contre, c'est naturel. C'est pas conventionnel, c'est naturel. Si l'État est en pleine conformité avec les familles, alors très bien. Et comme on sait aujourd'hui qu'il y a des diversités et que l'État ne veut pas tenir compte du point de vue religieux, la famille considérant que le point de vue religieux est essentiel à l'éducation, dit « Ah non, je ne veux pas ça. » Oui, c'est très important. Et c'est ça qu'Aristote touche là. Fondamentalement, c'est les rapports de l'art et la nature. Parce que les lois doivent être ou en fonction d'une idéologie ou en fonction d'une finalité. Quand les lois sont en fonction d'une idéologie, elles sont fausses. Quand les lois sont en fonction de la finalité, elles sont justes. De la finalité humaine. C'est là le critère, vous voyez. Je peux avoir une idéologie qu'il faut des bovins à face humaine. Ça fait partie d'une idéologie, ça. L'idéologie peut très bien dire qu'il faut des bovins à face humaine. Pourquoi pas? Ça fait un mixte très extraordinaire. C'est une manière d'acclimater les bovins. Comme ça, on met un métaxus, une médiation entre le bovin et l'homme. Les bovins ont peur de l'homme, les bovins à face humaine n'auront plus peur de l'homme et pourront comme ça diriger les autres bovins. C'est le métaxu, c'est la médiation. Mais c'est très clair parce que toutes les idéologies sont à base de métaxu. C'est la dialectique. Ce sont les métaxus. Ce n'est pas la finalité. Cet exemple est très bon. Aristote prend ça parce qu'il sait que c'est très bon. C'est un exemple qui illustre admirablement les bovins à face humaine. On en rêve de trouver tout un troupeau de vaches à face humaine. Quand elles étaient en train de brouter, on ne voyait pas. On ne voyait que les quatre pattes et leur queue. Ils sont des bovins. Tout d'un coup, les voient lever la tête. Vous voyez comment on... C'est très intéressant, ça. C'est très loin. C'est comme ça qu'on attrape les gens. Mais non, ce sont des bovins. Non, ils ont une face humaine. Et là, c'est l'idéologie qui a fait ça. Et l'idéologie seule peut transformer comme ça. La finalité, non. La finalité dirait tout de suite, ah non. Oui.
Oui, mais c'est
l'idéologie, c'est pas l'efficacité. Premièrement. Non, oui, mais c'est l'efficacité. Je veux dire, c'est l'idéologie. Vous voyez? Je dis que c'est l'idéologie parce qu'on touche la forme, vous voyez? Or, on a dit, la forme, au niveau de la nature, c'est la forme qui conduit à la fin. L'idéologie. C'est aussi la forme. Donc le point de contact entre une philosophie de la fin et une idéologie, c'est au niveau de la forme. Vous voyez ? L'idéologie n'ayant plus de finalité, alors l'efficacité peut intervenir comme elle veut, parce qu'il n'y a plus de finalité. Mais le point de vue, le point de contact, c'est ça. Comment se fait-il qu'on a une idée c'est une forme, tandis que là c'est la forme ordinaire à la fin. Or, la forme est liée à la matière. Elle détermine la matière. Si elle détermine la matière, la forme, elle implique un ordre vers une fin. Vous voyez ? Matière, forme, fin. Avec l'ordre. Tandis que dans l'idéologie, qu'est-ce qu'on fait ? On abstrait la forme. C'est idéologos. Idéologie. Vous voyez ? J'abstrais. Je regarde la forme pour elle-même. Indépendamment de la fin. Indépendamment de la matière. C'est pour ça que la matière peut être source de monstres et la matière est gardienne de la fin. C'est très curieux. Il y a les deux aspects de la matière. Je ne peux pas m'abstraire de la fin si je maintiens un ordre entre la forme et la matière. Si j'abstrais la forme de la matière, je peux alors ne plus regarder la fin et ne plus regarder que la forme dans l'immanence absolue. De plus, il faudrait que les transformations adviennent dans les semences, comme cela se rencontre par hasard. Oui, curieux. Aristote a prévu tout ça. Les transformations, les mutations au niveau des semences, au niveau de l'embryon. Comme cela se rencontre par hasard. Par hasard, c'est évident. La matière est trop rude. Il y a quelque chose qui empêche que ça se développe comme ça devrait se développer. Au total, celui qui s'exprime ainsi supprime et les réalités qui sont et adviennent par nature et la nature elle-même. Au total, celui qui s'exprime ainsi supprime et l'est par nature et la nature elle-même. Très fort ça, hein ? Vous voyez bien. Celui qui s'exprime ainsi, donc ce que nous avons vu, c'est-à-dire qu'il supprime la finalité et qui n'a plus que le point de vue de dire c'est l'art qui intervient comme il veut. Bien, celui qui s'exprime ainsi, un tel logos, un tel discours, si vous voulez. Un tel discours est un discours qui ne respecte pas les réalités naturelles et qui ne respecte pas la nature. Donc, par nature, toutes les réalités qui muent continuent par l'effet d'un certain principe existant en elles. Parviennent à une certaine fin par l'effet de ce principe, pas la même réalité à chacune, ni ce qui se rencontre par hasard, mais toujours dans le même ordre, la même direction, si quelque obstacle ne vient pas s'interposer. Voilà ce qui est par nature. La fréquence et l'ordre, voyez ? C'est la fréquence et l'ordre. Alors là, on détecte la finalité et la nature implique la finalité. Si la nature est coupée de la finalité, elle est vaine, elle n'est plus la nature. Donc c'est bien, vous voyez, au fond, le souci d'Aristote là, c'est de montrer que la fin s'enracine dans l'aspect substantiel de la nature. La fin n'advient pas de l'extérieur, tandis que l'art advient de l'extérieur, principe extrinsèque. Tandis que la nature, non. Tandis que la fin, non. Ça s'enracine dans la forme. Et au fond, la fin, c'est la victoire de la forme sur la matière. c'est la forme qui arrive à informer la matière d'une façon telle que l'ordre de la forme va jusqu'au bout. Vous voyez, la fin, c'est toujours, hein, il y a l'idée dans la fin, il ne faut pas oublier. Il y a l'idée dans ce qui est fin, toujours l'idée de ce qui est ultime. Et donc, c'est la forme dans son exigence ultime, la fin. C'est la détermination dans sa forme ultime. Au-delà des obstacles qui peuvent intervenir. C'est très beau, ça, vous voyez, comme sens de la finalité. Pas du tout quelque chose qui vient de l'extérieur, pas du tout. C'est une vision intérieure de la forme qui assume la matière d'une manière telle que jusqu'au bout, on verra la marque de la forme, la détermination de la forme. La fin d'ailleurs, en vue de laquelle advient quelque chose, et cela, en vue de cette fin, pourrait aussi advenir par l'effet de la fortune. Ainsi, par exemple, nous disons que, par l'effet du hasard, que l'étranger est venu et qu'il est parti, ayant délivré, lorsqu'il a accompli cela, comme s'il était venu en vue de cela, alors qu'il n'est pas venu en vue de cela. C'est excellent. C'est le facteur, oui. Et cela s'accomplit par accident, car la fortune est du nombre des causes par accident, ainsi que nous l'avons déjà dit antérieurement. Mais quand cela advient toujours et dans la plupart des cas, voyez la fréquence, ce n'est ni un accident ni par l'effet de la fortune. Or, dans les réalités physiques, il en va toujours ainsi. Si quelque obstacle ne vient pas s'interposer, enfin, vous voyez, les deux éléments, la fréquence et l'ordre, c'est bien ça qui est la finalité. Enfin, il est absurde de ne pas croire quelque chose advenir en vue de quelque chose, de quelque fin, si chaque fois que l'on ne croit pas que la réalité motrice en train de délibérer, et en vérité, c'est aussi l'art qui ne délibère pas. Et de fait, si l'art de construire les navires était dans le bois, il les ferait de manière semblable à la nature. De sorte que, s'il existe dans l'art la fin en vue de laquelle il meut, elle existe aussi dans la nature. La chose est au plus haut point manifeste lorsque quelqu'un se guérit lui-même, car c'est à lui que ressemble la nature. Que donc la nature est cause et qu'elle l'est à la façon de la fin en vue de laquelle quelque chose advient, cela est évident et clair. On reviendra sur ce dernier enfin, parce que c'est assez amusant. Et c'est pas parce que c'est très difficile qu'on ne doit pas le faire.